C'est le dernier. Et ouais. J'aurais pu. Si j'avais voulu faire une vraie fin à la Tarantino, j'aurais terminé par Lévitique 25, mais après j'aurais enchaîné sur Lévitique 26 pour retomber sur le texte du premier jour. Parce que les malédictions et bénédictions viennent juste après ce chapitre de Lévitique 25. Et ça vient boucler la boucle. Mais je pense qu'on va pas avoir le temps. Alors je vous encourage à lire Lévitique 25. Dans très peu de temps, comme ça vient s'enchaîner. Puis après, de toute façon, je vous exhorte vraiment à relire le Lévitique, en fait, hein, finalement. Ensuite, à la suite de ce camp. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour que peut-être je puisse y répondre. En tout cas, on va lire ce passage. On va le lire, par contre. Comme un peu comme hier, on va pas lire d'un seul bloc, on va essayer de le détailler, on va commenter, on va le saucissonner, parce que sinon, vous avez remarqué qu'il y a pas mal de versets et puis on pourrait se perdre un peu. Donc on va le faire comme ça. Avant de commencer, il faut juste que je vous dise que la plus petite entité en Israël, c'est la famille. Et au-dessus de la famille, plusieurs familles, ça forme un clan. Et plusieurs clans, ça forme une tribu. Voilà, les subdivisions de la tribu, c'est le clan et la famille. Et après, en dessous de la famille, bien sûr, il y a la personne. C'est la seule petite introduction qu'on pourrait faire. Voilà, donc on va analyser ce chapitre dans un premier temps. Vous allez voir, ça va être une lecture expliquée, quoi. Versets 1 à 7. Sur le mont Sinaï, l'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. Dis aux Israélites, quand vous serez entrés dans le pays que je vais vous donner, la terre elle-même se reposera. Pour l'Éternel, vous la laisserez se reposer. Pendant 6 ans, tu ensemenceras ton champ, et pendant 6 ans, tu tailleras ta vigne, et tu en récolteras les produits. Mais la 7e année sera un sabbat, une année de repos pour la terre. On la laissera se reposer en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras pas ton champ et tu ne tailleras pas ta vigne. Tu ne moissonneras pas ce qui poussera tout seul de ta moisson précédente. Et tu ne vendangeras pas les raisins de la vigne non taillée afin de donner une année de repos à la terre. Vous vous nourrirez de ce que la terre produira pendant son temps de repos. Toi, ton serviteur, ta servante, ton ouvrier journalier et les étrangers résidant chez vous. Ainsi que ton bétail et les animaux sauvages qui vivent dans ton pays. Tout produit des terres leur servira de nourriture. C'est ce qu'on appelle l'année sabbatique. Une année chômée. Une année où on arrête le travail, où on arrête de travailler au champ. La terre d'Israël appartient à l'Éternel. Il la donne, enfin, il la loue aux Israélites. Ils sont locataires de cette terre. Donc ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent à l'intérieur de cette terre. Dieu décide des années de récolte et des années de chômage. Et Dieu décide que tous les 6 ans, donc la 7e année, sera une année sabbatique, une année de repos pour les Israélites. On enchaîne, versets 8 à 12. Vous compterez 7 années de repos, soit 7 fois 7 ans, c'est-à-dire une période de 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, le jour des expiations, encore lui, vous ferez retentir le son du cor à travers tout le pays. Vous déclarerez année sainte cette 50e année et dans tout le pays vous proclamerez la libération de tous ses habitants. Ce sera pour vous l'année du jubilé. Chacun retrouvera la possession de sa terre et chacun retournera dans sa famille. La 50e année sera donc pour vous l'année du jubilé. Vous ne sèmerez pas, vous ne moissonnerez pas, et ce que les champs auront produit d'eux-mêmes durant cette année. Vous ne vendangerez pas la vigne non taillée, car c'est l'année du jubilé. Vous la tiendrez pour sainte, c'est-à-dire consacrée à Dieu. Vous mangerez ce qui aura poussé dans les champs. Tous les 49 ans, donc tous les 50 ans, ça dépend comment on comprend la chose. Ce sera le jubilé. Au bout de 7 années sabbatiques, donc la 7e année sabbatique, ce sera le jubilé. Et là, on a les Israélites qui peuvent retourner dans leur propriété. Sous-entendu, au cas où certains Israélites auraient été pauvres et auraient été obligés de vendre leurs propriétés. Parce que quand ils vont investir le pays promis, chaque famille, dans chaque clan, va avoir sa propriété à lui, une propriété inaliénable, une propriété qui restera à lui à perpétuité. Mais il se peut que parfois, quand les affaires vont un peu moins bien, quand, je sais pas, par exemple, le mari décède prématurément et que la dame est veuve, des fois on est obligé de vendre sa terre. Et alors on est obligé de vendre sa terre et on est obligé d'aller travailler ailleurs. Mais tous les 49 ans, c'est le jubilé, même quelqu'un qui a vendu sa terre reviendra sur sa terre à partir du jubilé. Et quelqu'un qui s'est vendu comme servant, comme esclave, comme employé, donc qui dépend totalement d'un autre Israélite parce qu'il est trop pauvre pour subvenir tout seul à ses besoins, tous les 49 ans, il retrouve sa terre et sa liberté. C'est le principe du jubilé. Versets 13 à 17. En cette année jubilaire, chacun de vous retournera dans sa propriété. Si donc vous vendez une propriété à votre compatriote, ou si vous en achetez une de lui, qu'aucun de vous ne lèse son compatriote. Vous fixerez le prix d'achat ou de vente d'une terre en tenant compte du nombre d'années écoulées depuis le dernier jubilé et donc du nombre d'années de récolte jusqu'au prochain jubilé. Selon qu'il reste plus ou moins d'années, le prix de rachat sera élevé ou faible, car en fait, ce qui est vendu, c'est un certain nombre de récoltes. Que nul de vous ne lèse donc son prochain, mais montrez que vous révérez votre Dieu, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Le fait que quand on vend une propriété, elle ne vous appartienne pas pendant toute votre vie. Parce que voilà, par exemple, si vous la vendez la 39e année depuis le dernier jubilé, bah, elle va vous appartenir 10 ans. Bien sûr, ça a des implications sur les prix du marché immobilier. Moins il reste de temps jusqu'au prochain jubilé, moins la terre vaut cher. Logique. Donc voilà, ce sont les implications immobilières. Du jubilé sur voilà du jubilé. Versets 18 à 22. Maintenant nous venons aux ordres à l'ordre et aux promesses. Vous obéirez à mes commandements, vous observerez mes lois et vous les appliquerez. Ainsi vous demeurerez dans le pays en sécurité et la terre vous donnera ses fruits, vous mangerez à satiété et vous mènerez une existence paisible. Peut-être direz-vous, que mangerons-nous la 7e année puisque nous n'aurons ni semé ni rentrée de récolte? Sachez que la 6e année, je répandrai ma bénédiction sur vous, en vous assurant une récolte suffisante pour 3 ans. Lorsque vous sèmerez la 8e année, vous vivrez encore sur l'ancienne récolte, dont vous mangerez même jusqu'à la récolte de la 9e année. L'Éternel donne l'ordre à ses enfants de lui obéir. Ses enfants veulent bien, mais ils n'ont pas tellement envie de crever de faim. Du coup, ils lui disent, oui, mais enfin non, ils lui disent pas, t'es bien gentil, parce que c'est quand même le Dieu très saint, donc sinon ils vont se faire foudroyer. Mais ils lui disent, mais qu'est-ce qu'on va faire si nous ne semons pas et si nous n'avons pas le droit de tailler notre vigne? Comment est-ce qu'on va vivre? On va plus rien avoir à manger. L'Éternel, la terre, ça lui appartient. Il leur dit, pas de problème, je vais faire en sorte que vous ayez une sorte de récolte absolument miraculeuse, miraculeuse, une sorte de distribution des pains avant l'heure, avant l'année sabbatique. Et vous aurez tellement de blé dans vos granges que bah, vous pourrez largement vivre avec ce que je vous ai donné l'année avant l'année sabbatique. Ça vous rappelle peut-être la manne, qui chaque veille de sabbat, il y en avait 2 fois plus, pour que le jour du sabbat, on n'ait pas à ramasser la manne. Dieu pourvoit. Dieu donne des ordres, mais Dieu donne aussi les moyens d'obéir à ses ordres. Il donne les moyens, mais il faut juste le croire. Versets 23 à 24. Petite introduction à la partie principale, de ce passage, parce que pour l'instant, on a plutôt des principes généraux. Une terre ne devra jamais être vendue à titre définitif, car le pays m'appartient et vous êtes chez moi. Des étrangers et des immigrés. Vous êtes chez moi, des étrangers et des immigrés. Dans tout le pays que vous aurez en possession, vous garantirez le droit de rachat des terres. Donc là, on entre dans la partie principale du jubilé. une partie principale qui, bon, donc qui fait du verset 25 au verset 55 et qui commence par la phrase « Si ton frère devient pauvre, si ton frère devient pauvre. » Alors, dans le Jubilé, première étape, versets 25 à 28. Si ton frère, si ton compatriote devient pauvre et doit vendre une partie de son patrimoine foncier, un proche parent qui a le droit de rachat pourra racheter ce que son parent aura vendu. S'il ne se trouve personne qui ait le droit de rachat, mais que cet homme retrouve des ressources suffisantes pour racheter lui-même la terre, il considérera le nombre d'années écoulées depuis la vente et versera le prix des années restantes à l'acquéreur. Ainsi, il rentrera en possession de sa propriété. Mais s'il ne trouve pas les moyens de racheter sa terre, il restera entre les mains de l'acquéreur. Elle restera entre les mains de l'acquéreur jusqu'à l'année du jubilé. À ce moment-là, elle lui sera rendue et il en reprendra possession. Donc ça, c'est le cas numéro un, l'étape numéro une. Quelqu'un qui devient pauvre et qui est dans l'obligation de vendre sa terre, parce qu'il lui faut des liquidités. Un de ses proches parents a un droit de rachat, un droit de préemption, donc un droit de rachat en priorité sur tout le monde. Quelqu'un de sa famille, hein, a ce droit de préemption. Et si, donc pour que la terre reste à l'intérieur de la famille, hein, c'est ça le but. Le but, c'est que on dilapide pas les terres et que ça aille à quelqu'un d'étranger à la famille. S'il n'y a pas un proche parent qui est assez riche pour racheter la terre de la personne, la personne qui vend sa terre, si elle arrive à se refaire, si elle arrive à retrouver des liquidités entre-temps, a un droit de rachat pour rentrer sur sa terre. C'est l'étape numéro 1. Mais donc il y a deux exceptions, verset 29 à 31 et verset 32 à 34. Verset 29 à 31. Si quelqu'un vend une maison d'habitation située dans une ville entourée de remparts, son droit de rachat durera une année entière à partir du jour de sa vente et sera limité à cela. Si la maison n'a pas été rachetée au terme d'une année complète, elle sera définitivement acquise à l'acquéreur et à ses descendants. Elle ne sera pas rendue à son propriétaire d'origine à l'année du jubilé. Est-ce que j'ai fini? C'était ça? Ah non, encore une. Par contre, les maisons des villages sans mur d'enceinte seront considérées comme les champs du pays. Elles pourront être rachetées en permanence et seront rendues au jubilé. Il y a une première exception. Les premières exceptions, c'est les villes, c'est les maisons à l'intérieur des villes fortifiées. Les maisons à l'intérieur des villes fortifiées n'ont pas de champs, hein, donc en fait, y a pas de, on peut pas, enfin, elles servent pas à la subsistance de toute une famille. C'est un cas particulier, donc en fait, il y a une année pour pouvoir les racheter, et sinon, elles sont vendues là pour le coup à titre définitif. Pour les villes, c'est différent. Versets 32 à 34, autre exception. Quant aux villes des Lévites et aux maisons qu'ils y posséderont, ceux-ci bénéficieront d'un droit de rachat perpétuel sur ces maisons. Si un Lévite a vendu sa maison, l'acquéreur en sortira l'année du jubilé. En effet, les maisons des villes de Lévite sont leur propriété inaliénable parmi les Israélites. Les champs dépendants de leur ville ne pourront pas être vendus, car ils sont leur propriété à perpétuité. Les Lévites n'ont pas de terre. Ça, c'était prévu dès le départ. L'Éternel leur dit, votre héritage, c'est moi. C'est beau ça, votre héritage, c'est moi, l'Éternel. Du coup, l'Éternel leur a prévu des villes où ils vont habiter. Si jamais ils sont pauvres, ils peuvent quand même revendre leur maison, mais ils y retourneront et on n'a vraiment pas le droit de racheter leur maison. Ils ont vraiment que ça, eux, hein, et puis voilà. Et leurs parents, ce sont des Lévites, hein, donc ils ont cette espèce de point commun de ne pas non plus avoir de terre. Donc voilà, entre Lévites, on ne peut pas trop s'entraider. Du coup, on n'a pas le droit de leur prendre leurs biens. Donc c'était les deux exceptions. Étape numéro 2, versets 35 à 38. Si ton prochain qui vit près de toi s'appauvrit et tombe dans la misère, tu lui viendras en aide, même s'il est étranger ou immigré, afin qu'il survive à côté de toi. Parce que tu révères ton Dieu, tu ne recevras de sa part ni intérêt, ni profit pour que ton prochain puisse vivre à côté de toi. Si tu lui prêtes de l'argent, tu n'en exigeras pas d'intérêt, et si tu lui donnes de tes vivres, tu n'en tireras pas de profit. Donc tu lui vendras, enfin tu lui donneras ou tu lui vendras à prix coûtant. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan afin d'être votre Dieu. Donc, il y a le devoir du parent de prêter de l'argent au cas où, voilà, ça se passe, au cas où la personne devient encore plus pauvre que l'étape numéro 1, elle peut vraiment vendre sa propriété et se mettre à disposition d'un proche parent comme métayer. Voilà, c'est-à-dire, voilà, elle travaille pour lui, mais par contre, elle peut encore posséder peut-être du matériel agricole, ou en fait, on peut lui prêter de l'argent pour qu'elle achète son matériel agricole. Par contre, il est bien spécifié qu'on n'a pas le droit de lui prêter à intérêt, pour pas aggraver sa situation, et pour aussi pas se faire du beurre sur son dos. On va pas utiliser la pauvreté de quelqu'un pour se faire encore plus d'argent, ce qui évite d'accroître la fracture sociale. Étape 3A, versets 39 à 43. Vous avez vu, on est vraiment dans la casuistique, hein, dans l'étude des cas. 39 à 44. Si ton prochain qui vit près de toi devient pauvre et se vend à toi, tu ne le feras pas travailler comme un esclave. Tu le traiteras comme un ouvrier salarié ou comme un immigré. Il sera ton serviteur jusqu'à l'année du jubilé. Alors il quittera son service, lui et ses enfants, pour retourner dans sa famille et rentrer en possession du patrimoine de ses ancêtres. Car ceux que j'ai fait sortir d'Égypte sont mes serviteurs. Ils ne doivent pas être vendus comme esclaves, parce que tu révéreras ton Dieu, tu ne le traiteras pas avec brutalité. Donc là, encore plus pauvre. La personne n'a vraiment plus rien, elle doit vraiment beaucoup d'argent, beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Là, clairement, la personne peut se vendre comme esclave, comme employé, plutôt, parce que c'est pas vraiment esclave, c'est plutôt comme employé, à son proche parent. Toujours le proche parent, hein, qui est visé, il doit venir en aide à son parent plus pauvre. Exception, versets 44 à 46. Les esclaves, hommes ou femmes qui vous appartiendront, proviendront des nations qui vous entourent. C'est d'elle que vous pourrez acquérir des esclaves et des servantes. De plus, vous pourrez acheter des étrangers résidant chez vous et des membres de leur famille qui vivent parmi vous et qui sont nés dans votre pays, et ils deviendront votre propriété. Vous pourrez les léguer en héritage à vos enfants pour qu'ils en aient la propriété. Ils seront vos esclaves à perpétuité, mais vous ne traiterez pas avec brutalité vos compatriotes, les Israélites. L'esclavage, il ne faut pas faire d'anachronisme. L'esclavage, c'était quelque chose de très répandu à l'époque. Et ce que Dieu dit aux Israélites, c'est qu'ils ne pourront pas prendre comme esclaves leurs compatriotes israélites, mais par contre, ils peuvent prendre comme esclaves des compatriotes étrangers. Et ces compatriotes étrangers, donc, déjà coûtent beaucoup moins cher, vu qu'ils sont esclaves. Et en plus, on peut les léguer par héritage. Donc, en fait, ils sont esclaves à perpétuité. Et en fait, c'est vraiment une main-d'œuvre qui était, bon, voilà, pas chère et très, très courante à l'époque antique. Et il ne faut pas forcément voir la traite des Noirs, vous voyez, la traite des Noirs qui s'est passée beaucoup plus tard. C'était pas forcément tout le temps les mêmes conditions. Les esclaves n'étaient pas traités toujours avec une trop grande dureté. Et si vous vous rappelez Lévitique 19, hein, on nous dit quand même de bien traiter les immigrés qui sont parmi le peuple. Et donc on peut largement imaginer que les Israélites devaient bien traiter leurs esclaves. Et surtout que, bon, bien sûr, l'esclave, on l'achetait. Et là, vraiment, c'est purement économique, mais quelque chose qu'on achète, on n'a pas envie de l'abîmer. Il sert et on ne l'abîme pas. Mais pour l'esclavage, vraiment, il faudra en dire beaucoup plus, mais j'ai pas le temps. Donc voilà. Donc en gros, l'année jubilaire, ça s'applique qu'aux membres du peuple élu. Parce que c'est eux les locataires. C'est eux les propriétaires, entre guillemets, de leur terre, et non des esclaves. Étape 3B, verset 47 à 55. Donc là, on pousse encore la pauvreté, hein. Si un étranger résidant chez toi s'enrichit et que l'un de tes compatriotes s'endette envers lui et se vende à lui ou à l'un de ses descendants d'une famille étrangère, il jouira, même après que la vente aura été effectuée, d'un droit de rachat. L'un de ses frères pourra le racheter. De même, son oncle, son cousin ou tout autre membre de sa parenté proche ou éloignée pourra le racheter. Ou encore, il pourra se racheter lui-même s'il en trouve les moyens. Il calculera en accord avec l'acquéreur le nombre d'années comprises entre la date de la vente et l'année du jubilé. Le prix du rachat sera fixé en fonction du nombre d'années sur la base du salaire d'un ouvrier. S'il reste encore beaucoup d'années, il versera pour son rachat une large part du prix payé par l'acquéreur. Et s'il reste peu d'années jusqu'à celle du jubilé, il en tiendra compte et versera comme prix de rachat une somme proportionnelle au nombre de ces années. L'homme sera chez son maître comme un ouvrier engagé à l'année, mais tu ne permettras pas qu'il soit traité avec brutalité. S'il n'est racheté d'aucune de ces manières, il retrouvera sa liberté l'année du jubilé, lui et ses enfants, car les Israélites sont mes serviteurs, parce que je les ai fait sortir d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Étape extrême, un immigré est en pays d'Israël, il s'est vraiment enrichi, il est devenu un grand propriétaire et il commence à avoir du bétail, il commence à être très riche. Un Israélite s'est endetté envers lui, il n'a pas les moyens de rembourser, donc il est obligé de se vendre comme serviteur à cette personne, à son créditeur. Le clan, dans ce cas-là, le clan de la personne qui est devenue pauvre, a le devoir d'empêcher la perte d'une famille en la rachetant. Un immigré ou un autre clan ne doit pas pouvoir enlever une famille d'un autre clan ou racheter les terres et les biens d'une famille d'un autre clan. Tout le clan doit faire corps et doit faire preuve de solidarité pour racheter la terre. But du jubilé. Il y a trois buts à ce jubilé. Le premier but, c'est un bienfait théologique. Premier but, Dieu est souverain sur le temps et la nature. Hier, on a vu qu'il était souverain sur le calendrier, mais donc, en plus du calendrier des fêtes, on a le calendrier jubilaire, une fois, et le calendrier sabbatique, hein, donc il y a un sabbat toutes les semaines, un sabbat tous les 7 ans, et une année jubilaire tous les 49 ans, ça veut dire que Dieu est souverain là-dessus. On peut donc lui faire confiance, puisque c'est le propriétaire, puisqu'il est tout puissant, et donc accepter une année de jachère tous les 7 ans. Ça, c'est la première chose au niveau du bienfait théologique. La deuxième chose, et vous l'avez remarqué tout à l'heure quand je l'ai lu, le jubilé est proclamé quand ? Le jour du grand pardon. Le jour du Yom Kippour, le jour des expiations. Lévitique 16, merci. Lévitique 16. Vous savez, on ne l'a même pas lu en détail, mais on en parle tous les jours. Donc je vous invite bien sûr à lire Lévitique 16, mais je l'ai pas mal raconté quand même. Et le fait de faire cela le jour du grand pardon, le fait de sonner du cor pour libérer tous les esclaves et libérer toutes les propriétés qui ont été rachetées, le jour du grand pardon, le jour des expiations, ça rajoute à l'idée de liberté, au jour de libération. On est libéré du péché par Dieu, contre Dieu, et on est libéré de l'esclavage. Comme les Hébreux devaient leur libération d'Égypte et devaient leur remise de dette à Dieu, ils devaient en faire de même avec leurs compatriotes. Dieu les a rachetés, Dieu les a libérés, ils doivent faire pareil avec leurs compatriotes. Le second bienfait, c'est un bienfait économique. Bienfait économique, c'est que le système du jubilé fait qu'il ne peut pas y avoir de grands propriétaires fonciers à l'intérieur d'Israël. Il n'y a pas une famille qui peut racheter absolument toutes les propriétés qui sont autour d'elle pour se fabriquer un grand patrimoine et exploiter tout un domaine seigneurial, si on voulait parler avec des termes un peu français et médiévaux. L'oppression, l'aliénation, l'accumulation prenaient fin au moins deux fois par siècle. Deux fois par siècle, si vous arriviez à acquérir une grande propriété, il fallait à peu près tout lâcher, sauf votre propriété de départ, et tout racheter derrière. Vous voyez ? Pas mal, non ? Donc il y a une sorte de principe d'égalité sociale. Donc vous voyez, on a le principe de propriété privée, mais on a aussi un principe d'inaliénabilité et d'interdiction de prêt à intérêt qui écrase le prochain. C'est une sorte de mélange de droite et de gauche, vous avez vu ? Droit de propriété qui est déjà là, donc de droite, si on veut être caricatural bien sûr, mais aussi le fait de ne pas pouvoir écraser son prochain. Un principe de gauche. Chacun doit conserver les moyens de vivre de sa terre. On n'est pas dans l'assistanat. On n'est pas dans les subventions. Tout est prévu pour que chaque Israélite puisse vivre avec ses moyens, les moyens que Dieu met à sa disposition. Ça, c'est bienfait économique, bienfait social. Maintenant, le bienfait social, c'est de protéger les familles contre l'excès d'endettement et ses conséquences. Aujourd'hui, avec toutes les émissions qui existent, qui montrent des personnes qui se sont endettées jusqu'au cou, qui ont pris une dizaine de prêts à des taux qui avoisinent 18-20%, on voit à peu près les conséquences. Les conséquences, c'est l'alcoolisme, la violence, c'est la délinquance. Le jubilé protège la société israélite de cela. Et il y a des mesures morales, donc on a vu un peu ça avec Lévitique 19, hein, il y a des mesures morales, mais là, avec le jubilé, on a une mesure structurelle. Il y a un calendrier, on est obligé, tous les 49 ans, de tout libérer. Et aussi, un autre bienfait social, il y a la solidarité entre parents. Entre parents plus ou moins éloignés, parce que ça va jusqu'au clan quand même, à la fin. Donc là, clairement, on commence à toucher des parents très éloignés. Il y a le devoir de prendre soin les uns des autres. On est structurellement redevable. Même si on ne peut pas piffrer le cousin Lévi, non, Lévi, c'est pas du tout un bon exemple, le cousin Siméon, et bien même si on ne peut pas le piffrer, on est obligé de l'aider. Obligé. Pas le choix. Ces mesures égalitaires sont plutôt révolutionnaires. Elles vont à l'encontre de ce qui se pratiquait dans les autres pays. Et ce qui se pratique encore maintenant. Parce que les grands propriétaires fonciers, les puissants qui écrasent les faibles et qui les mettent dans un état de dépendance, c'est ce qui se faisait partout ailleurs. Ça ne se fait pas en Israël. Ça ne doit pas se faire en Israël. Bien sûr, dans la droite lignée de tout cela, il va falloir que je signale comment ça se passe, cette histoire d'égalité sociale, cette histoire d'égalité, cette histoire de justice sociale même. Déjà, dans Deutéronome 26, vous avez l'histoire de la dîme. Et bah, j'aime beaucoup cette histoire de la dîme, mais je ne pouvais pas vous la faire vu qu'elle n'est pas dans Lévitique. Mais je vous la cite. Regardez Lévitique 26, vous allez tout comprendre. Il fallait... Deutéronome 26. Il fallait que chaque Israélite donne le dixième de sa récolte. Le dixième de sa récolte servait à faire vivre les Lévites, à faire vivre la veuve, l'immigré et l'orphelin. Toujours pareil, solidarité sociale. Dans le psaume 24, on va un peu plus loin. Les deux premiers versets du psaume 24 disent « C'est au Seigneur qu'appartient la terre avec tout ce qui s'y trouve ». Là, on ne parle pas de la terre d'Israël. Dieu est propriétaire de la terre entière. Le monde avec tous ceux qui l'habitent, car c'est lui qui la fonde sur les mers et qui l'installe sur les fleuves. Un cran plus haut, on dit voilà, la souveraineté de Dieu, elle s'exerce sur la terre entière. Et après, on a tous les passages où les prophètes, mais il y en a énormément, dénoncent les injustices sociales. Parce qu'en fait, on ne sait jamais, on ne sait pas du tout si on n'a aucune preuve en fait que l'année jubilaire a été respectée, que le jubilé a une fois été appliqué. On n'est pas forcément sûr que le sabbat, enfin que l'année sabbatique, ait été appliquée. On n'a pas vraiment beaucoup de traces. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que en lisant les prophètes, et notamment Amos, Michée, on sait que quand Israël a sombré dans l'idolâtrie, quand Israël s'est détourné de Dieu, ça s'est à chaque fois accompagné d'une spoliation des biens, d'un appauvrissement d'une grande partie de la population au profit des plus riches. Par exemple, Amos 4, premier verset, il parle aux femmes riches de Samarie. Voici comment il leur parle. Amos 4 est un de mes chapitres préférés de la Bible. Parce que ça déchire sa race. Écoutez cette parole, vache du Bashan. Donc les vaches, ce sont les femmes de Samarie. Vous qui êtes dans la montagne de Samarie, vous qui opprimez les petites gens, qui écrasez les pauvres et qui dites à vos maris, apportez et buvons. Après, ça continue. Mais voici pourquoi il les traite de vaches. Bon, vache du Bashan, le Bashan, c'était une grande plaine où les vaches venaient brouter. Et en gros, voilà, il les traite de vaches. Et pourquoi est-ce qu'il les traite de vaches? Parce que ces femmes de Samarie, apparemment, elles sont leurs maris leur sont soumis déjà. Leur sont soumis. Ah oui, parce que c'est le verbe être. Hein. Et en plus, elles écrasent les pauvres. Elles écrasent les pauvres. Dans Amos 6, voici ce qu'il dit. Quel malheur pour ceux qui sont satisfaits à Sion. Ceux qui vivent en toute confiance dans la montagne de Samarie, ces notables de la première des nations auprès desquelles va la maison d'Israël. Passez à Calné, regardez. De là, allez jusqu'à Hamath, la grande, et descendez à Gad des Philistins. Valent-elles mieux que ces royaumes-ci? Et leur territoire est-il plus grand que le vôtre? Vous croyez éloigner le jour du malheur et vous faites approcher le règne de la violence. Couchez sur des lits d'ivoire, vautrez sur des divans. Ils mangent les jeunes béliers du troupeau, les veaux à l'étable. Ils égrènent les sons du luth comme David. Ils se sont inventés des instruments de musique. Ils boivent du vin dans des calices. Ils se confèrent des onctions avec les prémices de l'huile. Ils ne souffrent pas du désastre de Joël. C'est pourquoi maintenant, ils vont être exilés en tête des exilés et les banquets des vautrés prendront fin. Grosse accusation envers les gens riches qui, alors que la nation souffre, alors que les pauvres deviennent de plus en plus pauvres, eux, ils sont vautrés sur des divans. Eux, ils festoient avec les plus grands mets. J'ai pas le temps de tout lire, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses semblables dans les prophètes. Les prophètes n'arrête pas de dénoncer l'injustice sociale. Et puis, on arrive dans l'évangile, et dans l'évangile de Luc, qui est vraiment l'évangile qui parle des riches et des pauvres, j'ai fait un devoir là-dessus, il n'y a pas très longtemps, et ça m'a vachement touché. Luc veut vraiment faire passer un message à propos des riches et des pauvres. Luc 4, verset 16. Un passage très connu. Hein. Luc 4, verset 16. Je ne vais pas arrêter. Le gars, il est un peu obsédé. Hein. Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé. Et il se rendit à la synagogue, selon la coutume, le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il déroula le livre et trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, le jubilé, et aux aveugles le retour à la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année d'accueil de la part du Seigneur. Jésus reprend ce qu'il y a dans Ésaïe 61. Et malheureusement, je n'ai pas le temps de lire tout Ésaïe 61. Mais voilà, marquez-le, lisez Ésaïe 61. Et vous remarquerez que... Ouais, vous remarquerez tout seul. Vous allez voir, c'est vraiment excellent. Vous allez voir comment Jésus, quand il lit ce passage, dit tout de suite en fait, qu'il répond aux attentes du peuple d'Israël. Dans l'évangile de Matthieu, au verset 18, Matthieu 18, c'est le grand verset du pardon. Le chapitre 18, ouais, merci, j'ai ma traductrice qui s'appelle Marion. Au chapitre 18 de l'évangile de Matthieu, c'est le grand chapitre du pardon. Et Jésus ne dit rien d'autre que cela. Dieu vous a pardonné de l'énorme dette que vous lui deviez. Dieu vous a fait grâce, vous a renvoyé libre alors que vous lui deviez énormément d'argent. Donc, en échange, vous devez rendre la dette de ceux qui vous doivent pas grand-chose, mais qui vous doivent quelque chose quand même. Dieu vous a pardonné l'énorme dette, l'énorme péché que vous aviez en vous et qui méritait sa colère. Donc vous devez, vous êtes dans l'obligation de pardonner ceux qui vous ont fait un petit peu de mal, bien moins que ce que nous on fait à Dieu. Le pardon. Jésus prend cette image du jubilé, prend cette image de la grâce et la transforme avec l'image du pardon. Dans Apocalypse 4, on passe encore un peu, Apocalypse 4, versets 32 à 37. Voici ce qui nous est dit sur la première église. Tous ceux qui étaient devenus croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Acte 4, j'ai dit quoi ? Bon voilà, hein. Il est temps d'aller se coucher. Hein. Mais moi j'ai quand même eu 4h30 de sommeil, hein, parce qu'il y en a certains. Acte 4, versets 32 à 37, je suis vraiment désolé. Verset 33, j'ai lu le verset 32, donc vous avez vu, ils partagent tout, ils ne s'estiment pas propriétaires de leurs biens. Verset 33, avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et la grâce de Dieu agissait avec force en eux tous. Aucun d'eux n'était dans le besoin, car ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le produit de la vente et le remettaient aux apôtres. Ceux-ci le répartissaient alors entre tous et chacun recevait ce dont il avait besoin. C'est ainsi que, par exemple, un certain Joseph possédait un terrain. C'était un lévite originaire de Chypre. Les apôtres le surnommaient Barnabas, ce qui veut dire l'homme qui encourage. Il vendit son terrain, apporta l'argent et en remit le produit aux apôtres. L'église nouvelle est une église où la propriété, où le produit de la vente de la propriété sert à assurer une égalité sociale en son sein. On n'estime pas avoir des droits, on estime avoir des devoirs envers les frères et sœurs. Voilà ce que c'est l'église. Du coup, au niveau de l'application, je pense qu'on va passer sur certains trucs. La première, je pense qu'il faut que nous ayons un comportement éthiquement correct. Et ça peut recouvrir plein de choses, cette phrase, mais au niveau de vos filières, au niveau de votre futur métier, il y a une question que vous devez vous poser. Est-ce que vous participez à l'injustice sociale ? Est-ce que la fracture sociale, vous contribuez à l'accroître par votre métier ? C'est une grande question, c'est l'éthique. C'est la première chose. Deuxième question, Dieu est-il de gauche ? Bien sûr. Jésus, il avait les cheveux longs, il avait de la barbe, il était de gauche. Il n'y a pas de problème. Non, en gros, Dieu est-il de gauche, ça sous-entend un peu, est-ce qu'un chrétien doit être de droite ou de gauche ? Je pense que le passage de Lévitique nous montre que c'est pas comme ça qu'il faut définir les choses. Et que ce n'est pas en termes militants qu'il faut utiliser la Bible. La propriété privée était présente en Lévitique. La propriété privée ne cesse pas dans Acte 4. Les personnes continuent d'avoir une propriété. Les personnes qui vendent leurs biens dans Acte 4 continuent d'en conserver. C'est parce qu'ils en ont beaucoup qu'ils peuvent en vendre. Donc en fait, Dieu n'est pas de gauche au point de prêcher le collectivisme. Il est socialiste, mais pas communiste. Alors dit Marion qui est socialiste. En fait, elle est prof, hein, donc en fait, c'est synonyme. J'ai un ami dont je vais essayer de brouiller les pistes pour pas qu'on sache qui c'est. Quelqu'un qui a une formation, qui intègre des grandes idées de droite au niveau de l'économie. Et cette personne, maintenant, en fait, a décidé de un peu bifurquer et peut-être de commencer à être pasteur. Et dernièrement, il nous disait que plus il était pasteur et plus il lisait la Bible, plus il était de gauche. C'est intéressant. Alors qu'avant, il était vraiment de droite. Hein. Il n'y a pas à dire. De toute façon, il serait jamais rentré dans son école s'il n'avait pas été de droite. Mais en tout cas, non, je trouve ça marrant parce que bon, c'est pas, bien sûr pas une généralité, mais c'est vrai qu'il disait plus je vois la vie à l'église et plus je lis la Bible, plus je me dis bon, c'est vrai que les idées de droite, des fois il y a des choses un peu cruelles, il y a des choses un peu individualistes et un peu qui écrasent les plus faibles. C'est un truc pour faire réfléchir que je dis, hein, parce que je m'en fiche que vous soyez de droite ou de gauche. Hein. Solidarité à l'intérieur de l'Église. Il y a deux cas. Il y a le cas où vous êtes pauvre à l'intérieur de l'église. Ou voilà, vous êtes étudiant, donc voilà, vous avez plus de pâtes. Parce que c'est votre quand même de votre produit de base. Vilain préjugé, oui, je sais, non, mais je caricature pour rigoler. Vous n'avez plus de pâtes et vous n'osez pas dire dans votre église que vous manquez d'argent. Eh bien, je suis désolé, mais vous avez totalement, mais profondément tort. Quelqu'un qui est pauvre à l'église, qui manque de ressources, doit dire j'ai besoin d'aide. Et deuxième cas, ceux qui voient quelqu'un qui est pauvre à l'église sont dans l'obligation de lui porter assistance. C'est pas forcément pécunier, ça peut être lui donner, je sais pas, 3 kilos de conserve et 4 kilos de pâtes. Si c'est un étudiant, des conserves de légumes, ça fait pas de mal. Ça permettra à certains étudiants mâles de 20 ans de découvrir un légume, par exemple. Alors ceci est un haricot vert. Tu le manges par là, tout va bien. Enfin, voilà. Tu ne manges pas la boîte, attention. Tu peux te faire passer très fort. Donc vraiment, il ne faudrait plus qu'il y ait de pauvres dans nos églises. Il faudrait que tout le monde ait de quoi manger. Il faudrait que quand j'ai mon ordinateur et que j'en ai marre de voir sa tête, au lieu de le mettre à la poubelle, au lieu de le vendre sur eBay, je le donne à quelqu'un à l'église. Faudrait qu'il y ait des prêts de voiture. Faudrait que quand quelqu'un a besoin de faire des travaux, il y ait la moitié de l'église qui vienne chez lui pour l'aider. Solidarité, quoi. Solidarité. Des ressources. Partage des ressources. Application encore plus drôle. Ah bah ça, je veux dire forcément hein, les droits. Il faut bien qu'on discute des droits d'auteur quand on étudie le jubilé. Le jubilé est pour la propriété privée. Enfin, en tout cas, accepte l'idée de propriété privée. Par contre, il est vraiment contre le fait que la propriété privée soit utilisée pour se faire un maximum d'argent sur le dos de personnes qui sont moins riches. Et pour les droits d'auteur, il y a quand même un truc super gênant là. C'est que, d'accord, il faut respecter les personnes et leur créativité. D'accord, les personnes doivent être rétribuées parce que toute peine mérite salaire. D'accord. Sauf quand ces personnes gagnent plusieurs centaines de milliers d'euros tous les ans et que, en fait, les personnes qui leur donnent ces centaines de milliers d'euros n'ont même pas le SMIC pour vivre. Ça me pose un gros problème que des personnes viennent à la télé. Et disent, oh là là, l'industrie du disque, vraiment, elle souffre, c'est trop bête, je suis obligé de vendre ma propriété à Saint-Tropez. C'est vraiment horrible, hein, vraiment, oh là là, les jeunes artistes, ils peuvent vraiment plus. Mais qui leur donne cet argent? C'est des personnes qui n'ont pas de propriété à Saint-Tropez, et qui n'ont pas de propriété à Megève, qui n'ont pas de propriété ailleurs. La distribution des biens ne doit pas pâtir de la propriété privée et des droits d'auteur. Un joueur de foot, il mérite d'avoir un gros salaire, il fait du spectacle, tout ça, c'est la loi de l'offre et de la demande. Pourquoi pas? Mais est-ce que c'est pas indécent quand il gagne à plusieurs millions d'euros par an? Alors que vous avez le supporter qui paye son abonnement à l'année et qu'on lui fait croire en fait qu'il soutient le club alors qu'en fait il se mange des salaires de malade. Tout ça pour même pas bien jouer. Et même pas être les meilleurs. Il y a quand même un problème avec cette loi de l'offre et de la demande, quand même. Le capitalisme, il faut quand même le réguler. Le réguler. Il faut vraiment faire quelque chose. Parce que là, on se sert de la propriété privée pour opprimer des gens. Il y a un vrai problème avec ça. Réfléchissez là-dessus. Je vous donne pas de réponse, hein. Et enfin, quand on dit toutes ces choses, on pourrait basculer dans le christianisme social. Et il y a une période, de la, il y a une période antécédente, précédente, précédente, où le christianisme est pas mal allé dans le côté social. C'est-à-dire que le principal, c'était d'aider son prochain. Après Jésus ressuscité, c'était un peu moins grave. Hein. C'était un peu moins important. Mais même si toutes ces revendications sociales que je viens de citer sont légitimes, même si elles sont fidèles à cette idée du jubilé, nous ne devons pas oublier que le besoin le plus fondamental de l'être humain, c'est pas d'avoir des biens, c'est de connaître le Seigneur Jésus et de vivre une vie nouvelle avec lui. Le besoin le plus fondamental de l'être humain, c'est de comprendre qu'il a besoin, qu'il ne peut pas vivre sans le Seigneur Jésus. Le problème, c'est que souvent les chrétiens qui ont fait du social étaient plutôt des libéraux, donc des personnes qui croyaient vraiment pas tout ce qu'il y avait dans la Bible, alors que les chrétiens évangéliques, eux, avaient tendance à être un peu repliés sur eux-mêmes et à pas trop faire attention à ceux qui sont pauvres. Ce qui est important, c'était la doctrine, puis c'est de se faire du bien tous ensemble. Et d'avoir une sorte de repli identitaire, d'être fort, voilà, comme ça. Et les pauvres qui sont à côté, on s'en fout un peu. Il faut vraiment que les chrétiens évangéliques se bougent pour faire baisser cette pauvreté. Si vraiment nous voulons être les lumières du monde, il va quand même falloir que nous sonnions cette année de jubilé, cette année de paix pour le Seigneur, consacrée au Seigneur, pour dire voilà, nous voulons libérer les personnes de la pauvreté, mais nous voulons aussi les libérer, aider à les libérer du péché en leur présentant l'Évangile. Les deux vont toujours ensemble. Les deux vont toujours ensemble. Alors, quand vous allez rentrer chez vous, réfléchissez à tout cela, parmi toutes les choses que vous avez à réfléchir. Et bon, voilà, j'ai pas de conclusion spéciale pour cet exposé, sinon pour vous dire que vraiment, ouais, relisez le Lévitique et imprégnez-vous un peu de ce livre. Merci de votre attention. Vous pouvez après lire Nombre et Deutéronome, vous allez voir, c'est vachement bien aussi. Isabelle va prier et Daniel va faire des annonces.